Il y a quelques semaines de cela, on avait commencé à partager, à parler du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Amen. On avait vu en fait que le Seigneur nous avait vraiment, mis à cœur de partager sur ce sujet, parce qu'en fait, nous sommes citoyens du royaume. Amen. Tu es citoyen du royaume. Peu importe ce que dit ta pièce d'identité, ton passeport, en Jésus, tu es citoyen du royaume des cieux. Amen. Et tout citoyen du royaume est censé connaître les réalités de son pays. Amen. Est censé connaître les lois de son pays. Amen. Il y a un principe dans le monde qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi. » Amen. Nul n'est censé ignorer la loi. Pourquoi? Parce que c'est cette loi qui te juge. Amen. C'est par cette loi que tu es jugé et tu es reconnu soit justifié ou soit condamné. Amen. Que tu le veuilles ou non, si tu ne connais pas le code de la route, si tu prends la voiture, que tu dépasses la vitesse, tu vas recevoir un courrier à la maison. Amen. Tu vas être sanctionné. Amen. Bon, je reviens au sujet que le Seigneur veut qu'on partage. En fait, le Seigneur m'a beaucoup parlé de, je ne sais pas pourquoi, mais on va le découvrir ensemble, beaucoup de vêtements. La dernière fois, on a vu la parabole du festin des noces. Amen. Je vois que c'est resté dans les esprits. Et on a vu dans cette parabole-là qu'il était question de vêtements. Amen. Il était question de vêtements. Et on a vu aussi que la chose principale, c'est que le Seigneur aime nous parler en parabole. Il aime nous parler en images. Il aime nous raconter des histoires. Parce que ces histoires-là ont une puissance pour nous marquer. Amen. Quand j'ai parlé de parabole, tout de suite, j'ai entendu festin, j'ai entendu noce, parce que c'est une histoire qui vous a marqué. Amen. Cette histoire vous marque parce qu'elle fait référence à quelque chose que vous connaissez. Amen. Que vous aimez. On aime tous les mariages. Amen. On aime tous l'idée de la fête, de la réjouissance. Amen. On aime aussi les vêtements. On aime bien être bien habillé le jour du mariage. Amen. Sous son meilleur profil et pouvoir être là pour se réjouir. Et c'est de ça dont on va parler principalement aujourd'hui, c'est de vêtements. Mais avant de commencer, je vais vous partager une autre histoire qui fait référence à un vêtement et ensuite on va prier avant de rentrer vraiment dans le message. Je ne vois pas de montre. Bon, j'en ai une sous mes yeux et il y en a une juste à côté. Très bien. Donc du coup, je vais me fier à celle-là. Celle-là en avance, celle-là me dit qu'il est 10 et celle-là me dit qu'il est 5. Donc je préfère celle-là. Donc je vais me fier à celle-là. Donc je voulais vous raconter une histoire qui est aussi une parabole, mais qui n'est pas dans la Bible, mais qui est une parabole, je pense, des temps modernes. C'est une histoire qui, je crois, va rester avec vous. Et j'aimerais qu'elle reste avec vous pour la suite parce qu'elle va vous aider, elle va vous servir. Amen. C'est une histoire qui parle de la vérité et du mensonge. La parabole s'appelle « La vérité nue et le mensonge ». Un jour, la vérité et le mensonge se sont rencontrés sur une route. Le mensonge a alors adressé la parole à la vérité et dit « C'est un merveilleux jour aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Silencieuse, la vérité a alors levé les yeux au ciel pour constater en faisant oui de la tête, pour valider. En effet, c'était une très belle journée ce jour-là. Donc la vérité ne pouvait que constater. Alors la vérité et le mensonge ont continué à marcher ensemble en silence. Puis, pendant un moment, ils ont continué à marcher, puis ils sont arrivés à un certain puits. Hein. Il y avait un joli puits à un certain endroit. Et le mensonge a alors dit à la vérité, « L'eau dans ce puits est vraiment bonne. Et si on en profitait pour se baigner ensemble ?» La vérité, toujours aussi méfiante et prudente vis-à-vis du mensonge, a pris la température de l'eau avec la main et a constaté en effet que l'eau du puits était vraiment bonne. Alors la vérité et le mensonge se sont déshabillés et ont commencé à se baigner tous les deux. Quand soudain, le mensonge sort brusquement du puits en sautant et s'habille rapidement avec les vêtements de la vérité et s'enfuit en courant vers le village le plus proche. Toute furieuse, la vérité bondit hors du puits et court à la poursuite du mensonge afin de récupérer ses vêtements. Lorsque les villageois voient la vérité arriver toute nue, ils sont horrifiés. Ils détournent leur visage afin de regarder ailleurs et d'éviter de voir la vérité toute nue. Toute nue, la vérité n'était pas belle à voir. Sur le visage des villageois, la vérité pouvait voir le mépris et la colère. Rejetée par tous, la vérité retourna au puits pour s'y cacher et elle disparut pour toujours, cachée, pour cacher ainsi sa honte et l'humiliation de sa nudité au fond du puits. Depuis ce jour-là, le mensonge voyage gaiement à travers le monde, habillé en habit de vérité et en étant respecté comme était la vérité autrefois. Vous voyez un peu ce que cette histoire nous dit. C'est une parabole qui pourrait facilement être dans la Bible, parce qu'elle parle d'une réalité qui est une vérité qu'on voit aujourd'hui. Amen. Le mensonge est partout. Amen. Le mensonge est dans tous les domaines, partout. On en parle à la télé, dans le monde politique, dans tout, partout, dans les maisons, dans tous les domaines, le mensonge est là. Amen. Et le mensonge a cette capacité de se faire passer pour la vérité. N'est-ce pas? Il a cette capacité de se faire passer pour la vérité. Et pourtant, lorsque la vérité est révélée, elle est rejetée, n'est-ce pas? Ceux qui disent la vérité sont méprisés, hein? Ils sont rejetés. Vous remarquez? Et pour nous, on s'en rend beaucoup plus compte parce qu'on sait que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et on a vu comment le Seigneur a été traité. Amen. Comment il a été rejeté. Amen. C'est vrai, on lui a arraché ses vêtements aussi, comme dans cette histoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de faux prophètes, de faux témoins, plein de fausses personnes. Jésus l'a dit, il y a plein de gens qui viendront en son nom pour dire qu'ils sont la vérité. Amen. Mais il a dit que ses brebis connaissent sa voix. Amen. Ses brebis connaissent sa voix. Amen. Et il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Amen. Donc, cette histoire peut rester avec nous parce que tous les jours, on doit être vigilant. Amen. Sachant qu'on est dans le monde du prince du mensonge. Amen. Ce monde est le monde de Satan, qui est le prince du mensonge. Amen. Et Christ nous a confié la vérité. Amen. Il est la vérité. Amen. Et il vit en nous. Amen. Si tu lis dans Proverbes, chapitre 20, verset 15, verset 5, il est dit que l'homme sage sait puiser dans son cœur des trésors. Amen. Amen. Notre cœur est un puits. Amen. Amen. Ton cœur est comme un puits. Amen. Et l'Esprit de Dieu révèle sa vérité dans le puits de ton cœur. Amen. Et si tu as la sagesse, la crainte de Dieu, tu pourras puiser dans la vérité qu'est le Christ. Amen. Pour trancher. Amen. C'était là la petite introduction. Seigneur, nous voulons incliner la tête, incliner nos cœurs, incliner nos pensées, incliner nos raisonnements, nous incliner tout entier devant toi, Seigneur, parce que tu es la vérité. Tu es la lumière du monde, Seigneur. Tu l'as dit toi-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, tes disciples ont dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Seigneur, c'est à toi que nous voulons venir ce matin. C'est à toi que nous voulons nous attacher, Seigneur, ce matin. Seigneur, ouvre nos oreilles, Seigneur. Seigneur, ouvre notre intelligence, Seigneur. Seigneur, dispose nos cœurs, Seigneur, à pouvoir t'entendre, Seigneur, à pouvoir reconnaître ta voix, Seigneur, à pouvoir recevoir la révélation qui vient de toi. pour que nous puissions comprendre, saisir les vérités et les réalités de ton royaume, Seigneur. Seigneur, tu vois que je suis devant toi, faible, Seigneur, dans mes forces naturelles, faible dans ma santé, mais ton esprit me dit, ce n'est point par ta force, ce n'est point par ta propre intelligence, mais c'est par mon esprit. Seigneur, c'est par ton esprit que nous voulons nous tenir devant toi ce matin, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Remplis-nous de ta vie, Seigneur. Nous sommes des vases, Seigneur, comme des vases devant toi. Seigneur, que cette parole qui va être libérée ce matin brise tout ce qui est mensonge, Seigneur. Confonde toutes les semences qui ne sont pas de toi, Seigneur. Et que tu puisses remplacer, Seigneur, toute chose qui n'est pas de toi par ta vie, Seigneur. Par ta vérité, Seigneur. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est 12. Bon. Alléluia. Donc, je vais passer sur la parabole, sur la signification de la parabole, tout ça, parce que je pense qu'on a tous compris ce qu'est la parabole, hein, et le principe des paraboles. Donc, on va revenir sur les questions. On va commencer par relire la parabole du festin des noces. Amen. Et ensuite, on va se reposer les questions qui sont posées à la fin, qu'on peut se poser à la fin, histoire de rentrer dans les vérités que le Seigneur veut qu'on retienne. Amen. Les vérités que le Seigneur veut que tu retiennes. Amen. Parce que l'Esprit du Seigneur nous dit que nous sommes fils de Dieu et que nous sommes co-héritiers de Christ. Amen. Donc tu es fils, tu es fille de Dieu. Amen. Et tu es co-héritier de Christ et tu as un héritage en Christ. Amen. Et le Seigneur veut que tu saches quel est cet héritage. Et cet héritage est glorieux. Amen. Il est glorieux. Rien sur cette terre ne vaut cet héritage. Amen. Rien sur cette terre ne vaut cet héritage. Toute parenthèse, cette semaine, j'ai entendu une actualité qui est banale. Amen. Je ne veux pas que vous la reteniez, mais c'est une pensée qui est passée dans ma tête. On a annoncé la mort d'un individu célèbre dans le monde, de la mode. C'était la semaine dernière, il me semble, pour ne pas le nommer, Karl Lagerfeld. Et puis, on a annoncé qu'il avait légué son héritage à son chat. Et je me suis dit, Seigneur, il y a beaucoup de gens qui doivent soupirer et se dire, si je pouvais être à la place de ce chat et avoir l'héritage de Karl Lagerfeld. Amen. Il y a des gens qui ont dû le penser à cause de l'argent, tout ça. Amen. Mais sache que l'héritage que le Seigneur te réserve, hein, est mille fois, c'est incommensurable. Amen. Ça vaut, on ne peut pas mesurer la mesure, d'accord? Et cet héritage est à toi et il vaut bien mieux que ce que Karl Lagerfeld a laissé à son chat. Amen. Et a laissé même à l'humanité. Ok? Donc c'est ça qu'on veut regarder aujourd'hui. Et la parole de Dieu dit que c'est un héritage glorieux. Donc allons maintenant dans la parabole. On va prendre le passage qui est Matthieu chapitre 22. Versets 2 à 14. Matthieu chapitre 22, versets 2 à 14. Jésus nous parle de notre pays, de notre royaume. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Bon, je vais lire la version qui est affichée. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Amen. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est le corps du message, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais un élément important qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu... Bon, je suis obligé de le dire. Il y a eu une invitation. Amen. C'est le Seigneur qui organise... Bon, c'est un maître qui organise des noces, un seigneur, un roi, et qui invite ses convives, ceux qu'il a choisis. Il envoie une première invitation parce que dans la coutume, comme c'était la coutume avant en Orient, il y avait toujours deux invitations. Amen. Une première invitation pour savoir la date et la deuxième invitation pour venir. Amen. Donc il y avait invitation, confirmation et ensuite on devait venir. Et là, il s'est trouvé qu'aux deux invitations, ceux qui avaient l'honneur d'être invités ont refusé. Alors le roi a fait envoyer ses serviteurs et a fait inviter tout un tas de personnes. Et on a lu, donc je ne vais pas rester trop là-dessus. Mais il y a plusieurs questions qui peuvent nous rester et qu'on est en droit de se poser. Amen. Parce que ces questions vont nous révéler la réalité du royaume derrière cette histoire. Amen. Si Jésus a raconté cette histoire, c'est parce qu'il veut révéler des aspects du royaume qui sont importants. Amen. Et on peut se poser la question, que représente cet habit de noces? C'est quoi ce habit en question? Ce habit qui fait qu'on peut te jeter dehors là. Pourquoi cet habit est-il si important? Et puis on peut se poser la question, est-ce que cet habit est vraiment obligatoire? Quelle est la signification spirituelle de cette obligation? Parce qu'on voit apparemment qu'il se peut qu'il soit obligatoire, même il semble obligatoire. Et il y a une conclusion qui est faite, il est dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Cette conclusion, elle est un peu étrange. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Elle semble étrange parce que, apparemment, cette conclusion n'est pas juste, elle n'est pas exacte. Parce qu'il y a eu beaucoup d'appelés, mais il y a un seul qu'on a jeté dehors. Amen. Il y a un seul qu'on a jeté dehors, donc ça devrait être plutôt, il y a beaucoup de gens qui ont fêté, mais un seul. Beaucoup ont fêté, mais peu ont été rejetés. Mais là, c'est pas le cas. Il n'y en a qu'un seul qui a été rejeté dehors, mais pourtant ça se termine comme ça. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La vérité de la conclusion de la parabole est expliquée par Jésus lui-même dans l'évangile de Matthieu. Amen. Il y a un principe que là j'utilise. Ce principe, je pense qu'on doit tous l'avoir quand on aborde la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu explique la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu justifie la parole de Dieu. S'il y a une question que tu te poses quand tu rencontres un passage, il y a toujours un autre endroit dans la Bible, dans la parole de Dieu, où le Seigneur te donne l'explication. Amen. Et donc là, c'est le Seigneur lui-même qui donne l'explication de cette conclusion. Matthieu 7, versets 13 à 14. Matthieu 7, versets 13 à 14. Si vous voulez, vous prenez des notes, mais si vous ne prenez pas des notes, vous pouvez me donner votre adresse email à la fin du message et je vous enverrai les notes que j'ai prises. Matthieu 7, versets 13 à 14 dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Jésus dit, utilise encore les deux termes ici, beaucoup entrent par la porte large et peu trouvent la vie. Amen. On voit ce beaucoup-là et ce peu. Amen. Donc lorsque Jésus parla à ses disciples aussi, à son retour, de son retour, parce que Jésus a parlé de son retour à ses disciples et de la fin du monde, il explique aussi qui sont ceux qui font partie du peu et qui sont ceux qui font partie du beaucoup. Toujours dans Matthieu. Matthieu chapitre 24, versets 4 à 14. Matthieu 24, 4 à 14. Je vais lire rapidement. Mais l'idée, c'est que je suis obligé de lire pour qu'on puisse constater, amen, que ce beaucoup et ce peu ne sortent pas de nulle part. Si le Seigneur utilise à chaque fois beaucoup et peu, c'est pour qu'on retienne ces deux notions-là. Amen. Parce que notre destin est lié à ces deux notions-là. Ton destin est lié à ça. Matthieu 24, à partir du verset même 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Derrière ce beaucoup et derrière ce peu, il y a un aspect prophétique. Amen. Derrière ce beaucoup, derrière ce peu, il y a un aspect prophétique. Et c'est une prophétie qui n'est pas forcément agréable à lire. Amen. Le passage que je viens de lire n'est pas forcément réjouissant à lire. Parce que le Seigneur nous révèle ce que sera chacun, qui seront les peu et qui seront les beaucoup à la fin. Amen. Dans ce passage qui est prophétique, on le voit. On peut tirer ceci du passage. Quand j'ai fait l'étude, j'ai identifié dans le passage qu'on vient de lire, voici les beaucoup. Beaucoup représentent plusieurs qui viendront sous le nom du Seigneur. Beaucoup représentent plusieurs qui séduiront les élus. Beaucoup représentent plusieurs qui vous livreront au tourment et vous feront mourir. Beaucoup représentent plusieurs qui se trahiront, se haïront les uns les autres. Beaucoup représentent les faux prophètes qui s'élèveront, ça je l'ai déjà lu, et qui séduiront beaucoup de gens. Beaucoup représentent le grand nombre dont l'amour se refroidira. Et le peu représente celui qui persévérera jusqu'à la fin et sera sauvé. Amen. Vous voyez que le peu est sélectionné par le Seigneur d'une manière qui est éprouvante. Amen. D'une manière qui est éprouvante. Et le Seigneur l'a dit. C'est une phrase qu'on dit souvent. Le Seigneur dit que le serviteur ne sera pas mieux traité que le maître. Amen. Le disciple. Hein. Donc, tout comme notre maître a été traité, nous les disciples aussi, on sera traités comme lui. Donc, on peut déduire que Sans l'ombre d'un doute, on peut déduire que l'homme sans habit de noces n'était pas le seul individu à ne pas être habillé convenablement. Il y en avait plusieurs autres dans la même situation. Amen. Donc cette personne, elle représente plusieurs personnes. Amen. Cet homme qui est sorti seul, il représente beaucoup de personnes. Cette méthode qui consiste à utiliser un individu pour représenter un groupe de personnes n'est pas limitée à la parabole du festin des noces. Donc si on étudie, si vous regardez encore dans les différentes paraboles du Seigneur, franchement, si vous prenez la Bible, maintenant vous regardez les différentes paraboles, vous verrez qu'en fait, tout est lié. En fait, tout est lié. Le Seigneur a donné vraiment tout ça avec un sens. Si on prend Matthieu 25, versets 14 à 30, le royaume des cieux est comparé à un roi qui confie de l'argent à ses serviteurs. Je crois que c'est ce qui a été prêché la semaine dernière. La parabole des trois talents. Hein? Il est question de trois serviteurs qui sont mentionnés. Ces trois personnes représentent trois types d'individus. Le montant d'argent remis à chacun d'eux est conditionné par la capacité de chaque type d'individu. Cette différence montre que Dieu évalue chaque personne individuellement. Amen. Dieu ne nous juge pas en groupe. Hein. Quand Dieu est là, il ne nous regarde pas tous ensemble. Il te regarde toi seul. Amen. Dieu regarde ton cœur. Amen. Dieu te voit, il sait où tu te situes dans la vie vis-à-vis de lui, il sait tout. Amen. Et il te regarde individuellement, avec ta personnalité et les circonstances dans lesquelles tu te trouves dans ta vie. Amen. Le Seigneur connaît tes difficultés, le Seigneur connaît tes limites, il connaît tes faiblesses, il connaît tes épreuves. Amen. Et il te juge, il t'évalue en fonction de ça. Amen. Donc on peut conclure que dans cette parabole, l'habit de noces représente, l'homme sans habit représente toutes les personnes qui n'étaient pas habillées convenablement. Amen. Autrement dit, il existe tout un tas de personnes sans l'habit. Une fois qu'on a compris qui est cette personne, on peut se poser la question de savoir, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, quelle différence il existe entre le fait d'être appelé et le fait d'être choisi? Quelle différence il existe? Parce qu'il y a une différence en fait, hein, entre appelé et élu. Beaucoup sont appelés, mais il y a cette histoire d'élection. Il y a quelque chose derrière qui est important pour nous de savoir. Lorsqu'on fait un appel, c'est un choix, quoi qu'on dise. Amen. Tu fais une invitation chez toi, un repas, tu vas appeler des amis. Avant d'appeler, tu vas choisir. Amen. Tu vas choisir qui tu veux recevoir chez toi. Amen. Donc, il y a déjà une notion de choix dans cette histoire d'appel-là. Si on va dans Jean, chapitre 6, verset 70, le Seigneur dit ceci quand il parle de ses disciples qu'il a appelés lui-même. « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon ?» C'est Jésus qui dit ça. « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, Jean 6, verset 70, mais l'un de vous est un démon ?» C'est Jésus qui a choisi Judas. Il dit cependant, celui-là est un démon. Il veut dire par là que c'est un serviteur de l'ennemi. Amen. C'est un ennemi. Donc on voit là que le choix du Seigneur, le Seigneur ne choisit pas que des bons. Dans cette histoire d'appeler là, le Seigneur ne choisit pas que des bons. On voit dans la parabole, il a commencé par appeler les bons. Les bons, on dit, ils ne viennent pas. Amen. Donc il a donné maintenant l'ordre à ses serviteurs, allez appeler tout le monde. Les bons comme les mauvais, vous appelez tout le monde. Deutéronome 7, verset 6 dit, ça c'est concernant Israël. Moi je pense que, c'est pas que je pense, c'est la réalité spirituelle derrière cette parabole. Les premiers qui ont été invités, ils représentent Israël, le peuple israélite. En Deutéronome 7, verset 6, il est dit ceci, « L'Éternel ton Dieu t'a choisi, afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre. » Amen. Ceux-là avaient été choisis. Ceux-là avaient été invités. Et on voit tout au long du récit dans la Bible que combien de fois Israël s'est rebellé. Amen. Contre Dieu. Combien de fois Dieu l'a invité à venir dans ses lois, à rester dans les lois, dans l'alliance, et Israël s'est rebellé. Donc, pour Dieu, on est dans les temps, le royaume de Dieu aujourd'hui, tel qu'il est, aujourd'hui, hein, avant le jour du Seigneur, il y a des bons et des mauvais dedans. Amen. L'état du royaume de Dieu aujourd'hui, il est celui-là. Donc tous les jours, on voit sur YouTube, toi-même tu dis ça, tu parles, les gens sont choqués. Oh, regarde ce qui se passe aujourd'hui dans le peuple de Dieu. Tu es choqué. On est tous choqués. Comment le Seigneur peut permettre ça? Voilà l'explication. Parce qu'on est dans les temps de la grâce. Amen. On est dans les temps de la grâce. Le moment où les serviteurs sont allés dehors, et puis le moment où le roi est venu pour voir le gars qui n'était pas habillé, c'est les temps de la grâce. Amen. Entre ces deux moments-là, c'est les temps de la grâce. Aujourd'hui, on est dans les temps de la grâce. Amen. Ce message te concerne, nous concerne, me concerne particulièrement parce que aujourd'hui, là, Dieu nous invite à vraiment considérer quel est l'habit qu'on a. Amen. Et ce que Dieu nous dit par là, parce que ce que je viens de dire concernant le peuple d'Israël, c'est que, en fait, Dieu, les chefs religieux pensaient que le fait d'être descendants d'Abraham dans la chair leur garantissait le passeport pour le royaume de Dieu. Amen. Ils avaient cette croyance-là. Il y en a qui pensent que parce qu'ils sont nés dans une famille de pasteurs, dans une famille de chrétiens, ils pensent que c'est fini, tu es sauvé déjà. Parce que tu es chrétien, beaucoup pensent que parce que tu es chrétien, ça garantit automatiquement le salut. Ce que ce passage nous dit, c'est que ce n'est pas vrai. Je viendrai après pour donner plus de détails là-dessus. Le fait de venir à l'église, par exemple, je rentre dans ce détail parce que c'est important. Le fait de venir à l'église à toutes les réunions, le fait de dire « Seigneur, Seigneur » tout le temps, le fait de chasser les démons, de guérir les malades, de prêcher la bonne nouvelle et de baptiser au nom de Jésus ne garantit pas automatiquement le salut. Amen. Ça ne garantit pas automatiquement le salut. Et c'est ce que le Seigneur dit dans cette parabole. Amen. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, dit le Seigneur. Matthieu 7, verset 21. D'accord? Dans la parabole de l'ivraie, Matthieu 13, 24 à 30, on constate que le blé et l'ivraie poussèrent ensemble sur le même terrain. Amen? Et ils ne seront séparés l'un de l'autre qu'au jour du jugement. Dans la parabole du filet, Matthieu 13, 47 à 50, le royaume des cieux est comparé à un filet qui ramasse les poissons de toute espèce, les bons comme les mauvais. Ils seront séparés par les anges à la fin du monde. Dans la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, 1 à 13, les vierges sages comme les vierges folles se rendaient au festin, mais seules les vierges sages pénétreront dans la salle de noces. Amen. Vous voyez, toutes les paraboles sont liées. Amen. Elles sont toutes liées et il y a une réalité du royaume sur laquelle le Seigneur appuie. Amen. Je vais le dire simplement, on n'est pas dans le temps du jugement. Amen. Arrête de regarder ton frère, ta sœur, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, tout ça. On n'est pas dans ce temps-là. Amen. C'est le Seigneur qui viendra juger. Amen. C'est le Seigneur qui viendra juger. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, « Qui es-tu, toi qui juges ?» Amen. « Qui es-tu, toi qui juges ?» Le Seigneur a dit qu'il est la porte. La porte est ouverte pour que tous rentrent. Amen. Pour que tous viennent. Et il faut que tu fasses attention à ne pas être un barrage. Il faut que tu fasses attention à ne pas empêcher d'autres de rentrer par la porte du salut. Amen. Ézéchiel nous dit que nous sommes des sentinelles. Amen. Nous sommes là, nous sommes censés être là pour prévenir, pour indiquer le chemin, la route aux autres. On n'est pas là pour être un barrage pour ceux que le Seigneur a appelés à inviter. Amen. Quand Jésus a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », il a fait de toi un disciple pour annoncer, pour inviter tous. Amen. Tous, les bons comme les mauvais. Tous. Amen. Alléluia. Et la question fatale vient. comment es-tu entré ici? Le maître demande, mais comment tu es entré ici? On peut se poser cette question. Comment ce gars a pu rentrer ici? Pourquoi le maître pose cette question? Pourquoi le roi demande à l'homme qui n'avait pas l'habit de circonstance, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» On pense parfois que cette question signifie « Pourquoi ne portes-tu pas l'habit de noces ?» Mais ce n'est pas « Pourquoi ?» C'est « Comment es-tu entré dans la salle de réception sans avoir une tenue de noces ?» C'est les deux « Pourquoi et comment ?» Amen. Il y a eu beaucoup, apparemment, il y a eu beaucoup de débats dessus, sur cette question de pourquoi et comment. Je sais qu'il y a plein de personnes qui l'interprètent de différentes façons, mais une chose est évidente, si le maître, le roi dit comment, c'est parce que pour lui, ce n'était pas possible. D'accord? Pour lui, c'était évident qu'il avait reçu un habit. Amen. Donc apparemment, tous ceux qui sont venus à la fête auraient reçu un habit à l'entrée. Amen. Il n'était pas possible de rentrer, pour le roi en tout cas, sans avoir ce vêtement. C'est ce qu'on peut déduire justement. Et la deuxième chose qui indique que cette interprétation est juste, c'est que l'homme en question est resté bouche fermée. Il n'a rien dit. Amen. Nous les hommes, nous les êtres humains, on est très forts pour se justifier. Amen. Dès qu'il y a un truc, tu vas toujours trouver une excuse. Mais cet homme n'avait pas d'excuse à donner au roi. Amen. Il n'avait pas d'excuse. Amen. Si tu as reçu comme tout le monde a, tu n'as pas d'excuse. Amen. Et c'est ce qui va se passer. C'est que pour le Seigneur, apparemment, ce vêtement-là, tous les invités, tous ceux qui ont reçu l'invitation sont venus, l'auront reçu. Amen. Il y a plein d'excuses. Donc ça, c'est pour l'homme qui était bouche bée. Lui, en tout cas, n'avait pas d'excuses à donner. Amen. Mais ce jour-là, plein d'autres trouveront des excuses. « Oh Seigneur, je suis trop pauvre. Je ne possède pas d'habit de noces. Ah, je n'ai pas eu le temps de retourner à la maison pour me changer. J'avais peur d'arriver en retard au festin. » Pourquoi un tel silence? Il était silencieux parce qu'il avait commis une faute. Apparemment, ne pas avoir ce vêtement, c'est une faute. Amen. Pour Dieu, c'est une faute que tu n'as pas le droit de commettre. Tu ne peux pas commettre cette faute-là. Amen. Donc, quelle est cette faute-là? Il faut qu'on sache que représente l'habit de noces. Et là, je vais faire ça en 5 minutes. Je vais tout faire pour qu'on... J'ai jusqu'à quelle heure? Pardon? Cinq minutes. OK. Donc, en 5 minutes. Donc, nous allons nous tourner vers l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui va nous aider à approfondir cette question de l'habillement. Parce que l'apôtre Paul utilise plusieurs fois l'expression « revêtir ». Amen. Revêtir quelque chose. Quand on lit dans les lettres de l'apôtre Paul, chaque fois cette histoire de revêtir revient souvent. Et donc, lorsqu'on prend le temps de regarder les passages, apparemment, il y a 15 références. Je ne vais pas rentrer dedans, hein, mais il y en a 15. Après ça, c'est une invitation à nous tous aussi à aller étudier les épîtres et parce que c'est ton testament. Amen. C'est ton héritage. Donc, tu as la responsabilité d'aller chercher pour savoir que dit ton héritage. Mais l'apôtre Paul nous dit cette chose en 1 Corinthiens 15, versets 53 à 54. Il parle de « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite « La mort a été engloutie dans la victoire. » Amen. Donc ce vêtement-là, il représenterait l'immortalité. Amen. On parle de vêtements d'immortalité. En 2 Corinthiens 5, versets 2 à 4, il dit « Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. désirant revêtir notre domicile céleste. Amen. En ce moment, tu es dans ton domicile terrestre. Amen. Ton corps est ta maison. C'est ton domicile terrestre. Mais on a un autre domicile. On a un autre corps que le Seigneur va nous donner. Un corps immortel. Amen. Un corps qui ne tombera pas malade. Amen. Un corps qui ne souffrira pas. Un corps qui ne vieillira pas, qui ne dégénérera pas. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et Galates 3, 27 nous dit, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Jésus-Christ. » Amen. Jésus-Christ, le ressuscité, est notre vêtement. Amen. Amen. Christ est notre revêtement. Galates 3, 26 à 27 dit, Galates 3, 26 à 27, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Puis au verset suivant, il complète sa pensée en disant, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus par Christ. » D'accord ? Donc la foi et le baptême vont ensemble. Amen. La foi et le baptême vont ensemble. Amen. Pour ceux qui ont été baptisés il y a 2 semaines, ils sont revêtus. Amen. Par la foi et le baptême. Amen. Ils ont reçu ce revêtement de Christ. Amen. Si tu ne l'as pas fait, sache que la foi, la profession de ta foi et le baptême sont nécessaires. Amen. Pour recevoir ce vêtement-là. Ensuite, il y a le vêtement du salut. Donc là, je vais survoler en une minute. Le vêtement, il y a le revêtement du salut. D'accord ? Revêtu des vêtements du salut. Dans Ésaïe 61, 10, il est dit, « Car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert de la robe de justice. » Amen. « Je me réjouirai avec joie en l'Éternel, mon âme s'égayera en mon Dieu. Comme un fiancé se pare de son turban et comme une fiancée sort de ses joyaux. » C'est Dieu qui fournit l'habit du salut. Amen. L'habit du salut. On a déjà vu revêtir Christ. J'avais envie de dire 2 choses. Je vais conclure là-dessus. Vous m'excusez pour les quelques minutes que je vais prendre. En Galates 3, 27 et en Romains 13, 14, l'apôtre Paul parle de revêtir Christ. Amen. Mais il y a 2 choses qu'on peut remarquer. Je vais lire. Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. D'accord ? Ça, c'est Galates. Romains 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Dans ces 2 passages, on dirait que l'apôtre Paul se contredit. D'un côté, il dit, vous avez revêtu Christ. Et après, il exhorte à se revêtir. D'accord ? Il donne l'ordre de revêtir Christ. En fait, il ne s'est pas contredit. C'est que c'est une question de contexte. Amen. Dans le premier passage, il parle de ceux qui ont fait ce revêtement initial lorsqu'ils ont donné leur vie à Christ. Amen. Mais ensuite, en Romains, il s'adresse à des personnes qui, après avoir eu la foi, ont commencé à s'éloigner du Seigneur. Amen. Et à reproduire des actes, à retourner au péché, et à se comporter d'une manière qui n'était pas digne de leur salut. Amen. Et donc, c'est à sa manière de dire, persister, persévérer à revêtir Christ. Amen. Et à conserver ce vêtement de Christ. Amen. Je vais m'arrêter là. Mais on peut voir qu'en fait, Christ, l'homme nouveau, ce vêtement nous est donné. Mais il y a aussi une dimension qui nous responsabilise. Amen. Le vêtement t'est donné, mais tu as la responsabilité, amen, de l'entretenir, de le préserver, de garder, amen, et de produire les actes de la nature de Christ, amen, de produire les fruits, amen. C'est pour ça que le Seigneur dit porter du fruit, amen, demeurer en lui et porter du fruit, amen. Je vais m'arrêter là et je vais demander au pasteur Jacques de prier pour... le message qui a été donné aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Amen.
Nous allons prier pour ce message concernant le vêtement, le revêtement Nous allons demander à Dieu de nous donner d'être revêtus de lui. Nous allons demander à Dieu que ce revêtement qu'il est pour nous nous donne de porter des fruits dignes de lui. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir parce que ce matin, tu as jugé bon de nous rappeler que tu es le revêtement essentiel, que tu es ce vêtement dont nous avons besoin pour être acceptés dans ton royaume, dans le ciel. Et ce matin, Seigneur, nous te prions, Père, que tu nous donnes d'être conscients de la nécessité d'être revêtus, que quand tu viendras, que tu nous trouves revêtus de toi-même, et que, Seigneur Jésus-Christ, tu nous donnes de porter les fruits dignes de toi, des fruits qui demeurent, qui perdurent. Seigneur, je veux te prier pour moi, je veux te prier pour ma famille, je veux te prier pour mon frère, pour ma sœur, Seigneur, que le Saint-Esprit agisse en nous pour nous amener à être revêtus de toi. Seigneur, que ce revêtement, Seigneur, que tu nous donnes de le gérer avec sérieux, de le gérer, Seigneur, en comptant sur toi, afin que, Seigneur, jour après jour, Seigneur, nous accomplissons les œuvres que tu as préparées d'avance. Père, je bénis ton serviteur, Seigneur, que tu as utilisé ce matin pour nous parler de ta part, que tu continues encore, Seigneur, à l'équiper, que tu continues encore, Seigneur, à le remplir de toi-même, Seigneur, pour que les jours et les semaines à venir, qu'il nous parle encore de ta part. Prends soin de lui, Seigneur, prends soin de sa maison, prends soin de tout ce qui le concerne, et que la gloire te revienne, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'y vais.